et sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires, noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Oh, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, avec moi dans les studios, il y a Anne-Sophie Ortiz-Balin, bonjour.
Salut tout le monde.
Gauthier Marchado.
Bonjour à tous.
J'ai failli manger son nom. Et enfin, Eva Natalia Grenier. Bonjour.
Salut.
Alors, nous sommes là tous les quatre aujourd'hui pour vous proposer une lecture d'un texte, justement d'Eva, qui, avant qu'on se lance dans cette aventure et dans cette lecture, va peut-être faire un petit point. Je lui cède la parole.
Alors, je vous fais un petit point.
Un preview.
Un previously dans le Théâtre de la Gamelle. C'est une série radiophonique que j'écris spécialement pour le Théâtre de la Gamelle pour Radio Canu. On en est à l'épisode 2. Cette saga s'appelle « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». Et ce deuxième épisode s'appelle « Paré au décollage ». Le dernier épisode, vous pouvez l'écouter en ligne sur le blog de Radio Canu. Il présentait un peu les personnages dont on va parler aujourd'hui. C'est une saga qui parle, qui a un prétexte de parler des problèmes sociétaux à travers l'intergénérationnalité.
Les relations familiales aussi.
Voilà, les relations familiales. En fait, aujourd'hui, comment un événement peut être interprété selon les problématiques qu'on a vis-à-vis de ce qu'on a, de l'âge qu'on a, du vécu qu'on a, comment on faisait sur tel thème ou tel thème qu'on soit né en 25, en 0, en 60 ou dans les années 80. Nos deux personnages principaux sont nés en 85 à peu près, au milieu des années 80. On a vécu leur enfance dans le premier épisode et les premières problématiques, elles viennent de se retrouver après 10 ans de séparation. Et dans elles sont cousines. Et dans cet épisode, on va un peu plus découvrir la génération des parents et le personnage d'Elisa. On va aller un peu plus en profondeur dans sa psychologie également.
Eh bien, très bien. Eh bien, plongeons tout de suite dans cette lecture.
Elles y croient qu'elles peuvent voler. Épisode 2. Paré au décollage. Ce n'est pas le roucoulement des oiseaux qui réveilla Elisa. Depuis l'aube, ils discutaient entre eux délicatement et la berçaient dans le lit moelleux plein de coussins de sa cousine. C'est une odeur vive de brûlé qui l'a sortie de ses rêves. Une odeur âcre et clairement pas désirée. Elle était dans les méandres de son inconscient quand ses narines devinrent vives. Ce ne fut pas délicat, ce fut immédiat et désagréable. Une odeur qui chassait tout le reste et appelait à l'aide. une odeur qui ne laisse pas le temps. Elle sauta du lit, littéralement. Un saut où sa fesse gauche fit rebond et permit à son pied droit de toucher le sol. Une fois sa voûte plantaire droite plantée dans le sol, son autre pied rejoint le tapis qui l'attendait et l'un devant l'autre, ils accompagnèrent Elisa vers la cuisine. De gros tupperwares étaient sur la table en bois, des tupperwares pastels et usés de plus de 3 décennies. Ils étaient pleins des classiques du pique-nique. Salade de pâtes, taboulé, tarte salée. Après que son esprit ait fait le scanner des mets présents, son odorat guida Elisa vers la raison qui l'avait réveillée. Elle courut vers le four, d'où une légère fumée commençait à sortir. Après avoir automatiquement pris un torchon, elle ouvrit la porte du four et eut le droit à un hammam gratuit de tout son avant-corps. Avec un geste de recul, elle ouvrit la fenêtre de la cuisine et une autre sensation âcre et clairement pas désirée se présenta à elle. Elle reconnut un visage, un corps, une attitude qu'elle n'avait pas vue depuis une dizaine d'années. Une personne qu'elle avait effacée de sa mémoire, sans s'en rendre compte. C'est en la voyant qu'elle se remémora sa tante Anna. En un seul instant, son esprit remodela la femme qui était devant elle au sein de tous ses souvenirs. Comme si une spirale prenait place dans son cerveau et faisait voler des poussières oubliées au sein de ses neurones pour reconstituer une existence oubliée. Le temps que la fumée provenant de la cuisine rejoigne l'extérieur, Elisa eut le temps de prendre une bonne respiration avant que la voix de la belle femme rousse d'une 50aine d'années, qui était assise sur la méridienne extérieure du jardin, se fit entendre.
Elisa ? Ma chérie, ah c'est bien toi. Je n'y ai pas cru quand mon imprévisible fille m'a appelée ce matin. Comment veux-tu que j'y croie ? Toi, ici, en Corrèze. Mais comment as-tu trouvé le temps ? Mais Yann me racontait que... Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Oh, c'est la tarte au bleu qui brûle. Oh, Mégane, tu devais mettre un minuteur. Tu me connais, une fois devant une tasse de café, le reste du monde devient flou. Il n'y a plus que mes blablabla. Est-ce que tu peux éteindre le four et puis rejoins-nous, hein ?
Elisa s'exécuta. Elle s'était toujours exécutée sous les ordres de sa tante Anna. C'était une femme qui n'avait pas l'habitude que les autres lui disent non. Elle ne laissait jamais la négation être possible. C'était très curieux que la tarte ait brûlé en présence d'Anna. Elle contrôlait toujours la situation. Elisa ne connaissait pas sa tante étourdie. Sa tante se trompait. Elle décrivait la mauvaise personne. Ce n'était pas du tout le genre de femme à oublier une tarte dans le four à cause d'une discussion avec sa fille. Une tasse de café attendait Elisa sur la table en fer forgé blanc qui était dans le jardin. Et sa tante l'invita à la boire d'un geste presque tendre. Elisa ne buvait jamais de café avant son thé. Ça lui donnait la nausée. Il fallait qu'elle prépare son estomac avant de le réveiller. Mais bien entendu, elle porta tout de même la tasse à ses lèvres. Elle ne trouvait pas d'autre choix.
Tu bois bien du café maintenant. Tu as l'âge. Tu dois être contente. Je me rappelle que quand tu étais petite, tu pensais que c'était un privilège, un truc pour les grands. Ça se voyait dans tes grands yeux. Tu venais vers nous. Tu t'asseyais discrètement vers ta mère et tu rapprochais ton nez de sa tasse quand elle la reposait. Tu étais vraiment très discrète, mais on te voyait faire. Tu attendais le moment où ta mère allait prendre un sucre et te le tremper dans son café. Tranquillement, paisiblement, tu nous écoutais et tes petits poumons se remplissaient des fumées de nos innombrables cigarettes. Mais à l'époque, on ne se préoccupait pas de ça, hein, des cigarettes et des enfants... On se disait que c'était nous qui ingérions la substance, donc vous, vous ne craignez rien. Va savoir comment on se racontait ces histoires. C'est pas pour autant qu'on se rendait pas compte que c'était mal pour nous, ça on le savait. On se fait souvent du mal par plaisir, tu trouves pas ? Je me souviens de ta mère un été, on avait loué un gîte dans les Pyrénées. Elle en avait marre, elle n'arrivait pas à arrêter de fumer, et elle vous voyait jouer dans le jardin avec Mégane. L'air était si pur. Et nous, on était sous une fumée de nicotine, ça l'a rendue folle. Elle s'est levée, Elle t'a demandé de la rejoindre et ton frère, lui, il faisait la sieste. Donc elle l'a laissée tranquille. Elle s'est isolée avec toi sur un petit escalier à l'abri. Moi, je vous ai vu. Hein. Et après une longue hésitation, je l'ai vue te tendre une cigarette en te disant d'en prendre une bouffée. Toi, tu l'as regardée intriguée, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, alors qu'elle mettait la cigarette entre tes doigts et qu'elle te regardait les yeux embués, tu ne discutas pas en mettant à tes lèvres le filtre, tu respiras à travers l'objet qui se consumait et le recula tout en soufflant la fumée que tu venais d'ingérer en grimaçant. Ta mère, elle se mangeait le bout des ongles. Et son corps se détendit légèrement en apercevant la grimace sur ton visage. Elle discuta un moment avec toi avant de revenir vers moi, un sourire incertain aux lèvres. C'était quitte ou double. Soit tu aimais, soit tu détestais. Elle a vu un véritable vertige sur ce coup de poker. Et pendant que ses mains tremblaient, elle s'allumait une cigarette en me racontant comment elle venait d'essayer de te convaincre de ne jamais fumer. J'ai l'impression que c'est réussi. Hein. Tu viens de te lever et... T'as pas allumé de cigarette en m'écoutant parler, tout va bien.
Elisa se souvenait de ce moment et se rappela que c'était l'état dans lequel sa mère était, plus que la cigarette en elle-même, qui l'avait dégoûtée à jamais de la nicotine. Elle n'avait jamais trouvé l'intérêt qu'avaient les gens à se rassembler autour de cet objet. Elle comprenait que c'était cool de transgresser par la cigarette, mais elle imaginait ces gens des années plus tard dans la même détresse que sa mère, et préférait garder son argent pour des CD ou des places de cinéma. Elle avait toujours été plus ringarde que cool, sans que personne ne le remarque jamais, vraiment.
Tu veux manger quelque chose ? Il y a de la brioche, je l'ai achetée de la petite boulangerie en bas de chez moi, elles sont délicieuses. Il y a un goût de fleur d'oranger. J'en achète les jours où je travaille pas, ce qui est rare en ce moment. Tu sais qu'on a organisé ce pique-nique il y a à peu près 3 semaines ? Entre mes nuits, l'émission de Mégane... et Kelly qui travaille à l'école, on ne trouve pas souvent de temps en commun. Ça tombe bien que tu aies pu te libérer. On n'arrive jamais à se voir avec les filles, même pas les dimanches. Et quand je fais les nuits, ça devient difficile avec l'âge, tu sais. Oh, je te jure, ils font pas la différence entre moi et les jeunes qui viennent d'arriver. On n'a clairement pas le même corps à 22 ans qu'à 53, faut pas se mentir. L'EHPAD est rempli à ras-bord, t'imagines ? On est isolé ici, alors les gens viennent parfois de très loin et les familles viennent moins, forcément, vu la distance. Alors ça double le travail. Et là-haut, ils trouvent toujours moyen de nous en faire plus, tu vois. Les petits chefs, là, les chefs Fayon, ils sont sous la pression des directeurs, qui, eux, sont sous la pression des conseils généraux, qui sont sous la pression de blablabla. Alors les petits chefs deviennent imbuvables avec nous et se vengent sur nos emplois du temps. Tu sais, dès que t'as un peu de pouvoir entre les mains, il y en a, ils savent pas le gérer. Ils te mettent dans la figure toute leur frustration à eux, comme si la vengeance, c'était quelque chose d'induit, de dû, comme si on pouvait pas faire autrement. Si moi je souffre, pourquoi l'autre il irait bien ? La vengeance de quoi ? Sur qui ? Au final, c'est qui est puni quand tu fais payer ceux qui t'ont rien fait ? Hein ? C'est ta face de bête sauvage, qui ne pense qu'à ses instincts primaires et qui oublie de réfléchir. Qui oublie qu'à la base, on est fait pour fonctionner à plusieurs et que c'est ensemble qu'on est censé avancer. L'intelligence de l'essaim. Et tout ça, tu sais à cause de quoi ? À cause des chiffres. Des chiffres qui volent dans les bouches et sur les papiers, qui font des fiertés sur le dos des gens. Quand ceux du dessus en rient dans le repas mondain, hein, qu'ils ne voient que des chiffres entre un pouillis de 92 et une bouchée de saumon, qu'ils se disent que chacun doit faire un petit effort, être brave, pour ses chiffres, pour tout le monde. Alors que leurs chiffres deviennent clairement honteux quand il s'agit de ceux qui ont financé leur campagne. Hein ? Les chiffres, ça a plus de valeur qu'un sentiment. Tu te rends compte ? Un sentiment, faut le ravaler. Alors qu'un chiffre, c'est concret, c'est indéniable. Tu peux pas contrer un chiffre, alors que l'épuisement, c'est si subjectif. Alors que la dépression, c'est pour les faibles. Qu'avoir du temps pour soi, c'est égoïste. Alors qu'un sourire, ça n'a pas de prix en vrai. Oh, je te jure, le travail, c'est plus comme avant. C'est vraiment plus comme avant. Je suis pas assez intelligente pour savoir d'où ça vient. Moi, je sais pas assez de choses pour ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a des arrêts maladie tout le temps. Que la direction, elle se pose pas les questions. Et elle a même pas le temps de faire des remplacements. Pas le temps ni l'argent. Mais si les gens sont malades, c'est bien que le corps humain, il peut pas supporter ce rythme-là. Il en a marre. Il est pas fait pour. C'est indéniable, ça. C'est de la science, ça. Ça devrait être aussi fort que les chiffres. Mais non, il y a le mot faiblesse qui s'englue dans la maladie et aujourd'hui, on transforme la science en excuse langagière. Ce que je sais, c'est que mes petits vieux et mes petites vieilles, je les aime toujours autant. Mais on n'a plus le temps de s'en occuper, de les accompagner. On enchaîne les toilettes avec les soins et les repas, les collations, l'échange. Puis à nouveau les soins, ça s'arrête jamais. Un jour, ils nous ont chronométré. Comme si laver Raymond, ça prenait autant de temps que laver Georgette. Mais même dans la vieillesse, on te met dans la compétition. Tu attends la retraite toute ta vie pour aller à ton propre rythme, mais en fait, c'est faux. On t'imposera toujours un rythme. Jamais ton cœur, il aura le temps de vraiment trouver sa propre mélodie. Les jeunes qui viennent en stage ou qui commencent, quelle image ça leur donne du travail? Ça leur donne envie de vieillir, ça? Ils veulent pas finir comme ça. Tu sais qui crée des groupes Facebook, les jeunes? Je sais pas comment ça marche, moi, ça. Hein. Alors, bon, je sais juste qu'ils débattent sur l'ordinateur, ils écrivent leur rage entre eux, et ils s'arrangent pour les emplois du temps. Et toi, si t'es pas inscrite sur Facebook, bah, c'est ta faute. T'avais qu'à mettre ta vie à nu devant tous pour avoir le droit de poser tes jours. Pour eux, c'est évident, y a pas de question. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et si t'es pas inscrit, eh bah, c'est que tu veux pas avancer avec ton temps. C'est que t'es pas dans la société. Bah, tu te rends compte? Moi, j'ai pas le réflexe d'aller sur mon téléphone, sur mon ordinateur toutes les 5 minutes, je pourrais pas. Et maintenant, si t'as pas répondu à un texto dans les 10 minutes, on te demande comment tu vas. Forcément, on va mal maintenant. Si on n'a pas regardé son téléphone pendant 10 minutes, on va mal. Et puis on fait sans toi. Ah bah t'étais pas joignable. Bah oui, on a choisi. On sait plus attendre aujourd'hui. Le temps des choses, il a changé. Je sais pas comment nos cerveaux ils vont s'adapter à ça. Il va y avoir une mutation, ça c'est certain. Les cerveaux humains, ils font la course, ils sont obligés d'être connectés en permanence aujourd'hui. On n'a pas été élevés comme ça. J'ai pas été élevée comme ça, moi. On vous a pas élevés comme ça, vous non plus. Hein. Vous serez obligés d'élever vos enfants dans ce rythme-là. Je vois pas où vous aurez le choix de faire autrement. Je vois vraiment pas. J'avais raison, tu aimes ça le café. Allez, viens, je t'en resserre un. Il est encore chaud. On vient de le refaire. Le café, ça, on en aura toujours besoin. Ça, c'est irremplaçable. Même avec des cerveaux mutés, ils auront toujours besoin d'un café pour se sentir bien. En tout cas, les lobbies du café feront tout pour.
En une tasse de café, Elisa avait l'impression d'avoir rattrapé les 10 années où elle n'avait pas vu sa tante. Une bourrasque d'un coup d'un seul, aussi vive que l'odeur qu'il avait sortie du lit. Elle se rappela d'où Mégane avait pris cette habitude et comment elle avait grandi parmi de permanentes logorées. Des logorées utiles et toujours aussi puissantes les unes que les autres, mais constantes. Même au réveil, sans attente, sans vérifier si l'autre est prêt à entendre si les mots ne passaient pas au-dessus du crâne des interlocuteurs. Elisa avait développé une technique d'écoute passive dont elle comprit enfin l'origine. Elle regardait les gens parler avec quelques sourires de connivence bien placés, tout en préservant dans un coin de sa tête un espace pour choisir sa tenue du jour, le menu du soir, ou continuer le rêve qu'elle n'avait pas eu le temps de finir la nuit précédente. Tout le monde a déjà expérimenté ce désintérêt, mais Elisa excellait. Elle savait repérer les mots, ponctuant le discours de son interlocuteur, et pouvait ainsi rendre l'appareil avec parcimonie, sans que l'autre ne se rende compte de sa méditation active. Elle avait automatiquement mis en place cette technique, tout en goûtant la brioche, effectivement délicieuse, qui était sur la table. Et le fondant que chaque bouchée lui offrait l'éloignait de la vivacité de son réveil incongru. Elle aida sa tante et sa cousine à ranger et à mettre en place le départ pour le pique-nique. Elle lança une cafetière pour mettre le liquide chaud dans son thermos, pour leur cerveau à tous. Cette journée allait être pleine d'émotions, elle le savait, et il fallait avoir le bon carburant pour bien l'aborder. Elle s'habilla rapidement et c'est en se mettant de la crème solaire dans le guéridon qui attendait leur départ qu'elle aperçut qu'Anna ne devait pas être au courant du secret. Du secret de sa fille. Meghan était étonnamment touchante. Ses gestes étaient maladroits et sa respiration avait un rythme inhabituel. On croyait presque voir sa poitrine doubler de volume à chaque inspiration et à chaque souffle. On pouvait penser que l'aveu allait sortir de ses lèvres vacillantes. Sa mère était fidèle à elle-même. Pas une trace de moment important à venir. Elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer son petit-fils. Qu'elle allait découvrir qu'elle était grand-mère. Et que son souffle allait lui aussi en prendre un coup. Elle ne remarquait pas que sa fille n'avait pas la désinvolture qui la caractérisait et menait ce départ pour le lac d'une main de maître. Ce n'est que quand son téléphone sonna qu'elle s'isola et que Meghan et Elisa se retrouvèrent seules. D'une moue interrogatrice, Elisa se fit facilement comprendre par sa cousine. Et elles se placèrent face à face, de connivence, comme lorsqu'elles étaient toutes petites, à chuchoter un secret de grande personne.
Vous êtes les seules à savoir avec mamie. Je l'ai fait toute seule. Personne ne savait. Et je ne sais pas comment faire. C'est plus gros que moi, tout ça. C'est énorme. Je me doutais que ça allait arriver. Un jour. Mais on n'est jamais vraiment préparé. J'aurais dû m'organiser. Prévoir un discours, un truc de fou, avec des ballons, des choses qui détournent l'attention. Avouer. Dire. Toi, tu sais faire ces choses-là. Tu veux pas raconter? En vrai, j'ai tellement absorbé que j'ai l'impression de jamais l'avoir vraiment vécu. C'est comme si quelqu'un d'autre que moi qui l'avait vécu, cette chose-là. Sauf que c'est bien moi. Tu verras, on ne peut pas cacher. C'est mon portrait craché. Il me ressemble follement. Hein, sauf les cheveux. Il n'est pas blond. On n'a pas trop parlé. Je lui ai juste dit de venir aujourd'hui au lac pour le pique-nique. Il a pris mon numéro de téléphone, puis il a fait sonner, comme pour vérifier. Pourtant, il ne doit pas avoir l'habitude de faire ça. C'est un beau garçon. Les filles doivent lui donner leur vrai numéro. Je suis même pas sûre qu'il ait à demander. Mais c'est normal qu'il ait pas trop confiance en moi. Je l'ai pas pris dans mes bras. J'ai juste souri pour le principe. C'était surnaturel. Le goudron qui reflétait la lune et ses boucles brunes qui tressautaient. Elles étaient parfaites. Son sourire à lui aussi. Il était parfait, ce sourire. Il était content de me voir. Pour de vrai. Il était ému. Et moi, j'étais bourrée. J'étais à moitié là. Il y avait la brise du vent contre mes joues et je les sentais fraîches. Ça se distinguait avec mes yeux qui tiraient de fatigue et ma bouche qui était engourdie de rhum. C'est du rhum qu'on avait bu cette nuit-là. Je devais sentir mauvais. J'ai pas voulu le prendre dans mes bras. J'ai pas voulu trop parler. J'ai fait que sourire, sans savoir si c'était pour de vrai ou de faux. J'étais pleine de sensations. Je voulais pas d'un truc à l'eau de rose, tu sais. Mais il y a des moments dans ta vie où tu peux pas l'éviter, l'émotion. Je peux pas décrire ce moment-là sans qu'en face, il y ait de l'émotion. Il y a un potentiel dramatique super lourd dans ce fait-là. Je sais pas. Je sais que ça va faire quelque chose aux autres. Avouer que tu es un fils, que tu as menti, ça peut pas être anodin. Comment tu fais pour expliquer aux gens que tu as réussi à mettre ça de côté? J'y suis arrivée, pour de vrai, je te jure. S'il ne m'avait pas retrouvée, j'aurais pu continuer comme ça, sans lui. Je veux pas retraverser tout ça et raconter. Mais je pouvais pas le laisser là, comme ça, comme un con sur la route. Je l'ai nié toute sa vie, je pouvais pas ne pas le prendre en compte. Ça aurait été trop cruel, et je suis pas cruelle. Juste, je lui ai donné une existence et je l'ai laissé la vivre sans moi. C'était un cadeau. Je l'aurais fatigué, on se serait détesté mutuellement. J'avais d'autres choses à vivre. Je lui ai fait le cadeau d'exister. Juste, on va parler un peu. Puis on verra. Je comprends qu'il ait envie de parler, de me voir. Moi, j'aurais préféré qu'il me retrouve pas, mais j'ai pas le droit de lui dire ça, hein. Ça, ce serait cruel. Il me ressemble tellement. Ma mère va flipper. Il a ses yeux à elle, du coup. Tu sais qu'il est pas adulte encore ? Enfin, officiellement. Il a 16 ans. Mais il fait si grand et si vieux. Il a vécu des choses, ça se voit. Il fait fort. Il fait envie. Il va poser des questions. Il a du caractère, ça se voit. Il va être plus fort que moi. Il doit avoir envie de savoir plein de choses. Je suis la base de sa vie. Alors je comprends qu'il veuille me parler. Kelly a fait un bon gâteau pour le dessert, je sais. Elle est douée. Je suis contente. Il mangera un bon gâteau quand on parlera. Et vous serez là pour lui montrer que je suis avec des gens bien. Je sais pas ce qu'il a fait hier. Je l'ai laissé en Corrèze, seul, une journée entière. C'est bien tombé qu'il y ait ce pique-nique. Il aura du bon gâteau. Ça vaut le coup d'attendre. Tu m'as rien dit sur ma robe ? Je suis allée l'acheter hier à la sortie du travail avant que tu arrives. Elle est belle, non ? Je me dis qu'il faut que je me rattrape. Les deux premières fois où il m'a vue, j'étais bouffie, pleine de sueur et de mauvaise odeur. La première fois, même mes 16 ans ne sauvaient pas mon teint après 12 heures d'accouchement. La deuxième fois, j'avais remis de la poudre quelques minutes avant de sortir du bar, mais j'étais pas bien fraîche non plus. Là, il va me trouver jolie, je me dis. Je lui dois bien ça. J'ai pensé à toi. Une robe à fleurs, ça fait responsable. Tu avais toujours des robes à fleurs dans les grandes occasions et tu faisais toujours plus sage que moi. Tu es bien coiffée, toi, là. Tu as de jolies tresses, ça fait beau. Tu veux pas m'en faire ? J'avais fait un chignon, mais ça fait sévère, je trouve, maintenant. S'il voit tes tresses, il va te trouver plus distinguée que moi. Je veux faire fille bien comme toi. Tu peux ?
Elisa accompagna sa cousine jusqu'à une chaise et peigna avec ses doigts ses longs cheveux. Ils étaient blonds et bouclés. Elle les connaissait bien. Elle avait passé des heures à les démêler avec des peignes des années 90 à gros pics durant toute leur enfance. Aujourd'hui, la mode était aux tresses bohèmes et floues. Ses doigts allaient donc suffire, et les heures passées devant des tutos YouTube lui permirent de dresser la chevelure massive de Meghan pour éblouir le fils qu'elle voulait impressionner. Une caresse approbative, Dana les emmena vers la voiture. Et les sapins prirent le relais sur l'espace mental qu'Elisa laissait habituellement à la rêverie. Ils étaient si majestueux et nombreux. Ils avaient accompagné depuis des siècles autant de secrets que de cachotteries, et ils offraient un chemin resplendissant à l'aveu qui allait bientôt être fait. Ils ne laissaient pas la place à autre chose que leur propre beauté. Même Anna ne parlait plus. Leur trajet était plein de l'imposante nature et de la musique de l'autoradio. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can
To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just.
Elisa vivait encore un grand moment pour sa cousine. À travers elle, elle accompagnait. Elle ne se rappelait pas de la dernière fois où elle avait vécu un grand moment avec elle. Où ses lèvres à elle avaient eu du mal à faire entrer et sortir l'air de sa bouche. Où son ventre et son cœur s'étaient soulevés d'émotion. Elle avait réussi à anesthésier sa vie de trop fortes émotions et avançait sûrement. Elle arrivait au moment de sa vie où les efforts avaient déjà été faits pour être amicalement et professionnellement épanouie. Elle avait tant investi dans ces deux domaines qu'elle avait réussi à oublier l'élément que chaque être humain prône comme raison de vivre, l'amour. Elle ne s'était pas rendue disponible et avait acquis d'autres savoir-faire. Elle avait construit une forteresse imprenable. Elle s'en rendait compte en sortant les glacières du coffre de la voiture. Elle maîtrisait tout, jusqu'à ses angoisses qui lui donnaient les excuses existentielles pour ne pas risquer le sentiment. Elle voyait dans les lèvres crispées de sa cousine ses lèvres détendues à elle. Ses lèvres qui n'étaient que sagesse et recommandation, qui s'était mise à préférer un fraisier à un baiser. Une satisfaction immédiate et sûre, qui se posait ensuite sur ses hanches pour poser encore plus d'espace entre elle et le risque. De l'intérieur, pas comme les mains de l'autre qui font frissonner et guident les hanches à se mouvoir, mais comme un édredon sur lequel elle peut se reposer tout en sûreté. Elle était un caméléon qui savait s'adapter, qui avait le pouvoir de prendre les couleurs qui l'environnent pour se protéger du danger, pour ne pas se faire remarquer et survivre. Un caméléon devant le coffre de la voiture de sa cousine qui lève les yeux et aperçoit une jolie jeune fille brune avec des créoles plus grandes que ses joues et un t-shirt plus petit que son buste et aussi rose que ses pommettes. Une jeune fille qui se rapproche d'elle avec un entrain vigoureux, des mets plein les mains. Attention, danger. Attention, métamorphose imminente.
Ah, j'ai réussi à arriver avant vous, je suis fière. Bonjour, je suis Kelly. Ah, j'arrive toujours après ces deux-là, elles m'attendent, mais toujours. Tu sais, il y a toujours des choses à faire de dernière minute que tu t'empêches de pas faire et bam, bah t'es en retard. Hein. Je me suis forcée à me dépêcher pour arriver avant tous. Je suis contente. Hein. Ça la fout mal de faire attendre sa belle famille. Sven m'a appelé ce matin.
il m'a foutu la pression. Il rigolait bien sûr, hein. Bah, il rigole tout le temps. Il me fait rire. Enfin, heureusement, hein, après 2 ans de mariage, il y aurait de quoi s'inquiéter sinon. Hein. Il m'a coaché à distance pour être à l'heure. Bah, tout va bien. Enfin, il va bien. Je lui ai dit que tu serais là, Mégane. Je suis contente de te rencontrer. Il était déçu de ne pas pouvoir te voir. Ça fait des années, il m'a dit. Il est avec les casques bleus sur les côtes en ce moment, tu sais, lui, c'est comme sa sœur, hein, faut sauver l'humanité. Allez, allez les filles, c'est lourd, faut qu'on marche. Tu vas voir, c'est magnifique, on a 5 minutes à porter les affaires, mais après, on est seul au monde, ça vaut le coup.
La métamorphose n'avait pas eu lieu. L'épiderme n'avait pas reflété la lumière, et Elisa ne s'était pas fondue dans le discours de son interlocutrice. Sven s'était marié ? Elle posa cette question qui remit en place la situation dans laquelle elle se trouvait depuis le matin. Celle dans laquelle elle s'était fondue sans recul. Celle qui remit en place le caractère exceptionnel que ce pique-nique prenait. La mascarade qui s'était mise en place. Anna et Megan essayaient de faire comme si de rien n'était, comme si elles n'étaient jamais parties. Mais leur vie avait bien continué sans Elisa. Et même les réseaux sociaux avaient eu raison de certains événements. Le malaise prenait enfin place. Et Elisa, qui d'habitude avait si peur du conflit, ne put contenir son étonnement. On ne l'avait pas invitée. Elle n'avait pas été bienvenue. On n'avait pas pensé à elle. Les mariages, c'était fait pour ça. C'était fait pour revoir la famille, pour fêter ensemble. C'était l'occasion qui se crée. Elle se rappela des spectacles qu'ils faisaient ensemble en fin de promenade, où le mariage était toujours le moment culminant de l'histoire. Ils avaient assisté des centaines de fois à leur mariage fictif. Et jamais, à l'époque, elle n'aurait pensé ne pas assister à celui de Sven dans leur vie d'adulte.
Ah, je suis désolée, Elisa, mais c'était un petit mariage, tu sais. Enfin, on n'a pas beaucoup d'argent et on a fait ça vite avant qu'il parte pour sa première mission. C'était un truc romantique, c'était pour lui et pour moi. Mais regarde, tu es là maintenant. Tu pourras plus dire que tu me connais pas et on va rattraper le temps. Il y a des gens qui disent que tu peux pas, mais moi je les crois pas. On peut rattraper le temps, hein. Il est pas perdu. Ça a fait juste de l'expérience pour mieux se retrouver, pour raconter des choses intéressantes, pas des banalités. Regarde, on est arrivé. On va pouvoir se raconter des choses vraies et importantes au bord du lac, où il y a juste nous et beaucoup trop de nourriture. C'est ça l'occasion. On se serait rencontrés en mariage, on n'aurait pas eu le temps de se parler, tu sais, j'ai vu personne. On avait beau pas être beaucoup, j'étais toujours tellement occupée, stressée et pas très disponible. Alors, prends du taboulet, qui, je suis pratiquement sûre, sera meilleur que celui du mariage, et assieds-toi. Sven parle souvent de toi et de ton frère. J'ai toujours voulu vous rencontrer. Vous faites partie d'un bout de sa vie intouchable pour moi. Je suis limite jalouse. C'est comme s'il gardait une partie de lui rien que pour vous. Quand il en parle, vous aviez l'air d'être une bande impénétrable. Vous étiez toujours les ombres de ses histoires et j'aurais tout donné pour pouvoir avoir été l'observatrice que tu as été de sa vie d'enfant. Moi, je suis une mielleuse romantique et tu sais, quand je caresse son crâne, je me demande comment ses cheveux étaient. Il est complètement chauve aujourd'hui et sur les photos, je vois ses boucles. Je les avais jamais vues sur lui, jamais en direct. Il s'est rasé les cheveux très tôt pour la petite calvitie et pour l'armée. Toi, tu le sais. Bah, toi, tu le connais comme ça. Moi, pas. On s'est rencontrés en boîte de nuit. Moi, ça n'a rien de romantique, mais je suis bien contente qu'il ait pris une cuite à la vodka ce soir-là, sinon il m'aurait jamais abordé. Bah, il est timide, tu le sais. Il était timide aussi petit, non? Oh, la tête que tu as fait, on dirait que non. Oh, non, mais on connaît pas la même personne, hein. Oh, bah non. Bah non, toi tu connais un petit garçon et moi je connais un homme. Il est venu me voir et il m'a fait rire en me disant qu'il remerciait ses amis de lui avoir payé des coups ce soir-là. Comme ça, il avait le courage de venir me voir. Ses yeux étaient un peu vitreux, ses paupières retombaient sur ses cils, mais on devinait le bleu de ses pupilles. Un bleu comme le ciel et qui éblouit un peu. Un bleu qu'on ne croit pas que le corps humain il peut produire ce genre de couleur. Un bleu que tu te dis, c'est l'océan et je me noierai pas.
Je venais d'être mutée dans l'école du village, j'étais avec des collègues et il n'avait jamais vu ma tête avant et ma tête lui plaisait. Un conte de fées moderne, quoi. J'ai eu de la chance, ou c'est le destin.
Elisa avait du mal à croire à un destin à la vodka et elle se servait du taboulé, qui était effectivement délicieux. Si c'était sur des pistes de danse alcoolisées qu'il fallait rencontrer la chance ou le destin, elle était décidément peu chanceuse, et sa destinée se faisait désirer. Elle n'aurait pas vu un homme qui cherchait à avoir du courage, mais un gars qui n'était pas capable de s'assumer. Elle n'aurait pas supporté le regard de ses camarades à lui sur leur jolie rencontre. Être l'objet du désir, la cible du jour. De ces choses communes qui font que chacun peut se baser sur un référentiel rassurant et induit. Les hommes qui tentaient leur chance avec elle ne se doutaient pas qu'ils avaient affaire à un modèle pas encore breveté. Elle avait le sourire facile et s'adaptait sans souci aux situations, caméléon. Elle ne distinguait pas le désir de l'empathie et cela avait fourvoyé beaucoup de pauvres garçons qui avaient cru voir dans sa sympathie naturelle qu'elle était réceptive à leurs avances. Elle ne l'était pas. Elle était sympathique. Juste sympa. Juste une fille qui s'intéresse aux gens. Non pas pour leur sexe, mais pour leur histoire. À force de découvrir que l'intérêt n'était souvent réciproque que pour une question de désir, elle devint de moins en moins encline aux rencontres. Ne pas savoir se contrôler était devenu une faiblesse à ses yeux. Et si un homme lui montrait une once de désir, il passait rarement le cap de ce qu'il croyait être un rendez-vous. Elle ne jouait pas avec les codes communs. Parfois, elle essayait et se rétractait toujours au moment où elle se rendait compte que ce n'était pas l'homme en face d'elle qui lui plaisait, mais le challenge qu'elle venait de se proposer. Et le jeu n'en valait pas la peine. Ce n'était pas de la vanité, mais de la déception. Elle ne pouvait détacher la notion de désir à celle de caprice, de vouloir. Elle ne supportait pas qu'on projette un fantasme sur elle alors qu'on ne lui avait pas adressé la parole. Elle était déçue de la manière dont l'être humain avait construit quant à sa gestion du désir amoureux. L'humain était si lâche, si dépendant du moindre mouvement de gland, un écureuil à l'affût, les dents en avant et la queue en panache. Sa vulve qui palpite et les lèvres prêtes à croquer. Elisa était devenue maîtresse en manipulation de ses sens et arrivait toujours à ce que l'autre lâche la prise. Elle n'en était pas fière, elle en était lasse, et préférerait pouvoir avoir la chance de se laisser draguer en boîte de nuit par un mec bourré, lui trouver de l'océan dans les yeux, de passer ce cap-là pour ensuite avoir le destin de pique-niquer avec sa belle famille au bord d'un lac, de désirer l'entièreté de l'homme qui s'était donné du courage pour l'approcher. Elle était loin d'arriver à lâcher prise sur les codes convenus de la séduction. Rien que le fait que ce soit convenu la fatiguait d'avance. Elle savait que les sensations étaient uniques et vivantes, que le gland était naturel et qu'on ne pouvait nier sa nature sans en payer le prix. Dans l'âge de glace, elle était la glace. Même avec Samy, elle n'avait pas vécu la poursuite infernale qui guide le film et provoque autant de cataclysmes que de résolutions. Quand les idées se matérialisent et que les mots ne suffisent plus. Tout ça n'avait jamais eu la chance de traverser ses ports. On avait expliqué à Elisa que ses réactions étaient neurologiques, qu'elle avait un haut potentiel dans la compréhension et dans la retransmission verbale et cognitive, alors que ses raisonnements devançaient les cheminements cérébraux les plus courants. Elle ne s'en vantait pas. Parce qu'elle aurait vraiment préféré être comme tout le monde et avoir un référentiel de compréhension et de communication commun à tous. Ses amis lui parlaient de peur, d'efforts à faire, alors qu'elle était juste prisonnière de ses perceptions et intuitions exceptionnellement aiguës. La caractéristique d'une forme de surdouance étant d'avoir du mal à expliquer ses sensations, puisque le surdoué ne vit pas les étapes habituelles du raisonnement et ses conclusions sont basées sur sa rapidité et sa pertinence de compréhension. la normalité était un but qu'Elisa aurait du mal à atteindre. Un brin d'herbe qui accueille une goutte de pluie sans se comporter avec la goutte, elle la reçoit, s'en nourrit et joue avec elle jusqu'à ce que la goutte de pluie rejoigne la terre. Elisa aurait tendance à déposer la goutte de pluie à terre dès sa réception. Elle ne se désaltérerait pas grâce à elle, car elle aurait stocké une zone humide à ses pieds et elle penserait que la goutte de pluie avait hâte de retrouver la terre ferme. Sinon, pourquoi serait-elle tombée du ciel ? Face au lac, Elisa se retrouvait à envier les gouttes qui coulaient le long des histoires des femmes qui l'accompagnaient. Elle s'était mouillée, et elle, elle était bien au sec dans la grimace qu'elle présentait comme réponse à Kelly. Elle n'arrivait pas à répondre, et ses lèvres se rejoignaient sur le côté de son visage.
Je ne suis pas une princesse, enfin, je veux dire, je ne crois pas être une princesse, je ne veux pas être une princesse. Je sais que ce n'est pas un conte de fées, et que c'est la vie qui s'enfile, je sais, mais c'était un beau moment. Et depuis, on passe plein de beaux moments avec Sven, avec mon mari. On a des mauvais moments, c'est entendu, mais moi, je me concentre sur les bons moments. Je veux être positive. Je suis une fille positive, hein. On a une vie à deux et elle est bien, et même que bientôt, une vie à trois. Non, le dites pas à Sven. Non, lui dites pas que je l'ai dit. Rembobiner, je suis allée trop vite. Merde, mais putain, mais ferme ta bouche. Mais je sais pas fermer ma bouche, pauvre fille. Mais je suis désolée. Mais s'il vous plaît, lui dites pas que je vous l'ai dit. On devait le dire à deux. Je sais pas faire ça, moi. Mais je sais pas garder les secrets. Mais il le sait, ça, Sven. Pourquoi il me demande de pas en parler? Mais je sais pas faire ça, moi, putain. Mais moi, depuis ce matin, j'ai peur. Je tourne ma langue dans ma bouche pour de vrai. J'ai mal à la mâchoire. J'ai acheté du champagne. Enfin, pour le boire. Je veux pas que mon bébé il boive de l'alcool dans mon ventre. Je sais. Ça, je sais que ça se fait pas. Mais je voulais vous en servir en vous disant que c'était pour l'occasion de se voir. Je voulais vous en servir et moi, j'avais mon secret en moi. J'ai les coupes en plastique, elles sont belles, hein, vous avez vu, il y a des petits dessins dessus. Je les ai payées vraiment plus cher, mais je voulais que ce soit bien. Ça fait fête. J'avais prévu de me retourner après chaque gorgée pour couper le gâteau et cracher le champagne. J'avais prévu tout ça. J'avais peur parce que j'ai les mains qui tremblent et j'ai ma respiration qui n'est pas comme d'habitude. J'avais peur que ça se voit. J'avais l'impression d'être Alyssa Milano dans Charmed. Tu sais, elle doit cacher avec ses sœurs qu'elles sont des sorcières. Les sœurs Halliwell, le pouvoir des trois. Au début de la série, elles ne savent pas comment gérer leur pouvoir parce que leur maman ne leur a pas vraiment expliqué comment faire. Moi, on m'a pas expliqué comment cacher les secrets, je sais pas. Et là, c'est en moi et je dois le cacher. Mais je suis pas une sorcière, moi.
C'est pas de la sorcellerie. C'est ta tête qui retient parce que tu peux pas faire autrement. C'est ton corps qui peut pas. Il peut pas. Il bloque. Il retient et le sang. Il retient et le sens. Il va pas jusqu'à ta bouche. Le sens, il reste en toi. Il n'est pas comme l'enfant qui sort de toi. Il reste bien profond dans tes entrailles et il sort pas. C'est pas de la sorcellerie. T'as de la chance. Kelly, t'es chanceuse de pas savoir garder, de dire. Je te jure. Tu es dans la chance. Le sort, il t'a donné cette qualité et chéri-la, aime-la, remercie vraiment. De pouvoir dire, d'avouer. Le pouvoir des trois, c'est un pouvoir plus puissant que tout ce qui existe sur Terre dans la série. Ces trois sœurs qui sont liées parce qu'elles ont un prénom qui commence par un P et que leur maman, c'était une sorcière. Et comme elles sont trois, elles sont toutes puissantes. C'est pas de la magie d'être trois. C'est des mauvaises mathématiques. C'est 1 plus 1 qui fait 3. Et c'est bizarre. Parce que 1 plus 1, ça fait 2 normalement. Et pour pouvoir s'additionner, il faut savoir compter. Et tu pouvais pas le garder pour toi, parce que toi, tu es bonne en maths. Toi, tu es institutrice et tu es logique. Parce que ton mec, il est loin, et que nous, on est sa famille. C'est bien. Tu le dis à ta famille, c'est bien de faire ça. Moi, ça veut pas. Moi, c'est un beau garçon aux boucles brunes qui va vous le dire. Parce que je me suis tue trop longtemps, parce que j'ai trop tourné ma langue dans ma bouche, parce que j'ai tourné ma langue dans trop de bouches. Que j'étais pas 1 plus 1. J'étais beaucoup plus, et ça a fait 3. Et j'ai pas compris non plus. J'avais trop de pouvoir autour de moi. De moi qui voulait pas. De moi qui sait pas comment faire. C'est pas de la sorcellerie. De la complexité humaine. C'est juste parce que c'est compliqué les choses. Et que c'est facile d'avoir des idées. Mais c'est moins facile de les vivre, les idées. Quand l'idée, c'est de laisser un petit corps tout flasque qui sort de ton vagin déformé vivre sa vie de son côté. C'est pas facile. C'est de la biologie. C'est de la philosophie. Fallait pas que je sèche les cours. Toi, t'as été une bonne élève. J'ai fait Ghostbuster dans ma tête. J'ai fait attention et j'ai pas appelé Beetlejuice 3 fois à voix haute. J'acceptais que Casper, il vive dans ma maison. C'était pas sorcier et j'ai pas eu besoin de l'aider, de l'aide de Jamy. Il est bien là, en chair et en os. Il existe, en fait. En fait, il va venir. Tu veux qu'on oublie ce que tu viens de dire ? Je crois que je peux court-circuiter tout ça, moi. Que je peux réenchérir et qu'on n'ait pas le temps de se réjouir pour toi. Je peux te voler la vedette, sans souci, aucun. Et on gardera les larmes et on gardera la joie pour toi, pour vous, plus tard. Moi, je suis une bonne sœur. Mon frère, c'est lui qui nous apprendra qu'il va être papa et il verra la joie dans nos yeux quand il le dira. T'inquiète pas, parce que je vais prendre toute la place dans vos têtes. J'ai des boucles brunes qui arrivent et moi aussi, j'avais du champagne. Mais je le cracherai pas. Moi, je fais pas ça. Je vais en boire beaucoup, 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 beaucoup. C'est bien qu'on ait 2 bouteilles. Je prendrai ta part. Je sais faire ça, prendre la place. Faire de l'ombre. Faut connaître ses qualités et ses défauts. Et faire avec. En vrai, il aurait dû être là en même temps que nous. T'aurais pas fait ta gaffe s'il avait été là. T'aurais été tranquille et t'aurais pu garder ton secret. Mais il fait jamais rien comme c'est prévu, lui. Je le connais pas bien, mais ce que je sais, c'est qu'il a un timing qui va pas avec le mien. Il est toujours là où on l'attend pas. Et il fait de l'effet. Je vous vois bouche bée avec des larmes aux yeux. Il est fort pour ça. Pour mettre du sentiment dans les gens. Il a un gros potentiel pour ça.
Elisa n'avait pas les larmes aux yeux et sa bouche n'était pas béante. Elle pensait au réveil qu'elle aurait voulu avoir ce matin-là. Elle aurait été allongée dans son propre lit. Les voilages blancs devant sa fenêtre se soulèveraient au rythme du vent matinal et la légère brise gagnerait délicatement sa peau. Il y aurait une douce odeur de pain grillé. Et les orteils de ses pieds chercheraient à éloigner le drap de son corps afin de sentir le souffle de plus près. Elle aurait pu traîner ainsi toute la matinée à prendre du temps pour elle. Rien que pour elle. Et le pain se serait grillé lui-même par magie et serait arrivé jusqu'à son bord du lit avec une énorme tasse d'Earl Grey. Un pouvoir inconnu, une présence qu'elle n'arrivait pas à se figurer. Son cerveau n'arrivait même plus à donner un corps à ses rêves. Elle avait beau essayer de se concentrer, mais aucun être humain n'arrivait. Auparavant, il y avait un regard, des gestes qui se matérialisaient dans son inconscient. Quelqu'un qui portait le plateau de petit-déjeuner, quelqu'un qui avait ouvert la fenêtre. Mais rien, vraiment plus rien. Derrière ses lunettes teintées, elle refermait les yeux et essayait. Elle tentait de faire apparaître quelqu'un, un corps. Elle voulait que quelqu'un apparaisse. Que ce ne soit pas ses orteils à elle qui retournent le drap. Que la nourriture posée sur la table basse n'apparaisse pas seule. Puis elle se concentrait. Plus elle se concentrait, plus les choses se faisaient par elles-mêmes. Elle n'entendait plus que ce qu'il passait autour d'elle et tentait de donner support à son inconscient en appuyant ses doigts trop fort contre la paume de sa main. mais rien. Juste une brise sur le voilage de la fenêtre. Toujours l'odeur du pain grillé, qui n'avait pas pu griller tout seul, qui ne pouvait pas griller tout seul. Elle se levait dans ses pensées et parcourait les pièces de son appartement où personne ne l'attendait, sans que personne ne lui manque. Elle était bien là, seule, dans son appartement. Elle était heureuse et son cerveau n'enviait même plus une vie à deux. Elle était devenue autosuffisante. Et même la crispation externe de ses mains n'arrivait pas à la raisonner. Elle s'en rendait alors compte et la violence de cette pensée empourprait ses joues et fit renouer son ventre avec les sensations qu'elle constatait ne plus avoir. Elle se reconnectait à une sensation qu'elle croyait avoir éloignée à jamais de son spectre sensoriel. Elle était touchée. Elle était triste. Et alors qu'elle tentait de concrétiser une main dans ses pensées, un appui sur son bras droit lui redonna espoir. Une main sur son coude, une main ferme, une vraie main. Une main qui ne venait pas de son imagination et qui réitéra plusieurs fois cet appui, faisant revenir Elisa à la raison. Quand ses yeux se réouvrirent, elle distingua un grand jeune homme aux boucles brunes dans les bras d'Anna et elle entendait le souffle de sa cousine tout proche d'elle. Et elle comprit que tout allait changer. La révélation était là, pour elle et pour sa cousine. Elles étaient toutes les deux à un virage et tout cela se cristallisait dans l'étreinte qui se formait au bord du lac. Le lac restait calme et studieux et le taboulé commençait à sécher au soleil. Le soleil était haut et il était fier de donner des couleurs flamboyantes à la scène qui se déroulait alors sur terre. Et la terre était accueillante pour que tout puisse commencer à nouveau.
Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip.
Yo.
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth.
C'était le théâtre de la Gamelle et vous avez pu entendre un texte de Eva Natalia Grenier, ici présente. Eva, est-ce qu'il y aura un autre volet ?
Mais bien sûr, il y aura plusieurs autres volets que vous pourrez découvrir à la rentrée.
Donc sur notre nouvelle programmation, prochaine programmation 2018-2019.
Suspense.
Merci à Gauthier Marchado, Anne-Sophie Ortiz-Balin, Eva Natalia Grenier
et
la lecture.
Toi-même.
Et oui, moi-même, tiens, merci.
Amandine Binson.
Voilà, tout est dit. Passez un bon week-end, profitez-en bien. Et évidemment, le Théâtre de la Gamelle revient la semaine prochaine avec une autre émission.
Merci, bonne semaine.
À la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
C'est un malade, c'est un vrai dingue. Il sait pas.